pour reconnecter Martine.
Hey, comment ça va?
À Karim.
Super, pour vrai, ça fait longtemps.
Et Karim, à la bibliothèque.
Oups, excusez.
Il y a la STM, la meilleure façon de se reconnecter.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'émission Les Faramineux. Alors aujourd'hui nous sommes trois dans le studio, ouais. Quel bonheur.
L'ego d'Arlette et
fille,
nous deux.
La fille qui dit, avant c'était d'habitude, bon on était 4-5, ouais, c'était normal. Maintenant quand on arrive à 3, c'est youhou, c'est la fête.
C'est la fête, ouais.
Alors on reçoit le dramaturge François Archambault. Bonjour François.
Bonjour.
On te reçoit parce que tu es auteur de la pièce Pétrole.
Ouais.
Et on va en parler parce que Dieu sait si on a des choses à dire sur le climat. Cette pièce qui se joue du 13 avril au 14 mai au Théâtre Jean Duceppe.
Oui.
On est mardi. Mmh. On est obligé d'avoir Mathieu Tessier avec nous comme chroniqueur pour ceux qui suivent pour la toponymie d'un accentué.
J'étais donné congé la semaine dernière, je te ferai remarquer.
Oui, c'est vrai Mathieu, quel bonheur c'était de passer une journée sans toi. Mais
chacun
aujourd'hui, tu es revenu.
Sieste. Oui,
quel
je suis là
bonheur.
Aujourd'hui.
Tu es revenu. Alors, en attendant, on part en musique avec Sal Barbe qui nous chante Good Lord.
Notre
Père. Puis priez, hey, good Lord, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Hey, good Lord, pour nous sauver des misères. Et priez, hey, good Lord, mais qu'est-ce qu'il pouvait faire? Hey, good Lord, pour nous sauver des misères. Pongé pour chanter dans la chorale, ma mère, encore. Puis mes frères, on chantait en tort, on savait pas les mots, ils me disaient en
show.
Quand je faisais mon solo, maman nous regardait avec son air bête.
Elle nous a sermonné un grand coup de bip sur la tête.
En chantant Hey Good Lord, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Hey Good Lord, pour nous sauver des misères à prier. Hey Good Lord, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Hey Good Lord, pour nous sauver des misères. Aujourd'hui j'ai deux filles pis je comprends mes parents. C'est pas sympa tous les jours pour élever des enfants. Les amours en boisson, la crise d'adolescence. J'ai pas hâte de les ramener le samedi soir après la danse. J'accroche mon chapelet, je les garderai dans le miroir. On fait
au vin, je vous salue Marie.
Cinq,
notre Père.
Pour chanter Hey Good Lord.
Nous voici avec François Archambault. D'abord, merci d'être là, François.
Oui, c'est un plaisir.
En ce moment, il fait la tournée pour, il fait la tournée pour répondre à plein de questions.
Oui, c'est la run de
l'air. Il se retrouve toujours être les mêmes ou presque.
Non, il y a quand même des variations quand même.
Parce qu'on parle de changement climatique. Et alors, j'ai été surprise, moi, quand j'ai lu comment ça a débuté. Donc, suite à un journal, un dossier sur les changements climatiques qui étaient faits dans le New York Times. Ouais. Mais surtout, alors moi, en tant que Française, ce qui m'a beaucoup touchée, ça a été ton émotion par rapport au départ de Nicolas Hulot.
Oui, en fait, j'ai vu l'entrevue. Ben, l'entrevue était à la radio, mais il y a eu une captation vidéo qui a été faite. C'était vraiment fascinant de le voir en entrevue. Puis il commence l'entrevue, puis il commence à défendre le bilan de son gouvernement. Puis tout d'un coup, on sent qu'il n'est plus capable. Et là, il annonce la démission. Après ça, il a dit que c'était planifié. Mais moi, en voyant ça, j'ai l'impression que c'était pas planifié. Il pensait pas le faire là. Puis même pendant qu'il parle, on le voit, il y a des tics. Là. Il y a comme son visage, il est comme crispé. Il y a comme une émotion qui monte. Là. Wow. Puis là, tout d'un coup, il dit, non, là, ça va pas du tout, ça va pas du tout. Je peux pas cautionner ce que le gouvernement fait. Puis en fait, lui, il a une réputation incroyable en France. Donc, il se disait, si moi, je reste... Les gens ont l'impression qu'on fait la bonne chose.
Eh bien oui, parce que Nicolas Hulot, il a fait tellement d'émissions autour du monde, de partout. Ça. Donc, tout ce qu'on apprenait, enfin, on va dire que tout ce qu'on apprenait sur le monde, on le gobait en plein, puisque c'était Nicolas Hulot qui le disait. Donc,
il y avait une crédibilité.
Il y avait une crédibilité absolument énorme. Alors, c'est pour ça que quand il a tourné Kazakh, je comprends qu'il n'ait pas voulu rester pour affirmer des choses qui n'étaient pas...
Il sentait que là, il frappait un mur, il n'arrivait pas à faire passer les politiques qu'il avait envie de faire passer. Il avait dit, on ne peut plus se contenter de petits pas. Là, c'était comme, il sentait l'urgence. Ben, on la sent de plus en plus. Mais déjà, en 2018, là, c'est en 2018.
L'urgence, elle est toujours là et elle ne change pas. Donc... On va d'abord parler de la pièce avant de revenir là-dessus. Donc, la pièce de théâtre, telle qu'elle est faite, elle est faite comme un thriller.
Oui.
Comment on fait un thriller avec les changements climatiques?
On fait rien et on
laisse aller. Le thriller s'écrit de lui-même.
Oui, non. Mais comme il n'est pas fini, tu sais que tu vas voir la pièce, il va y avoir une fin. Donc...
C'est une longue, 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 longue pièce.
Ben, c'est une longue pièce, mais en fait... c'est moi, quand je l'ai écrit, je pensais pas nécessairement à un thriller, mais on dirait que ça s'est... à la lecture, les gens m'ont dit, ah, mon Dieu, c'est vraiment enlevant. Mais en fait, je me suis basé sur certains éléments historiques, en fait, des premiers scientifiques et activistes qui se sont intéressés au changement climatique aux États-Unis vers la fin des années 70, puis qui ont voulu alerter le gouvernement pour qu'il y ait des actions qui soient prises. Donc, ce dossier-là était super intéressant. Puis moi, j'ai imaginé un personnage qui est engagé, en fait, qui est un scientifique qui s'intéresse aux insectes et qui, ironiquement, se fait engager par une compagnie pétrolière qui, eux, sont alertés par, justement, ce qui se passe présentement. Ils entendent qu'il y a des études qui sortent sur les changements climatiques. Ils entendent aussi que le pétrole est une des causes des changements climatiques. Donc, puis à cette époque-là, il semble qu'il y a des compagnies pétrolières qui étaient inquiètes, qui se disaient... Il va sûrement y avoir une législation, donc...
Et on va perdre de l'argent.
Oui, et donc, il y a des pétrolières qui ont commencé à envisager une espèce de diversification des activités, en se disant, on ne veut pas juste mettre nos billes dans le pétrole parce qu'il va peut-être falloir ralentir cette production-là. Donc, ils se sont dit, peut-être qu'il faut se voir comme des compagnies énergétiques, donc voir si on peut développer d'autres sources d'énergie aussi. Mais cette stratégie-là a été abandonnée en cours de route.
Oui, parce que... Pognon oblige.
Oui, c'est ça. C'était plus payant de nier. En fait...
Non, je ne vais pas m'énerver. Reste calme, en fait.
Bon. Ouais, c'est ça. Je ne vais pas vendre toute l'histoire.
Ce personnage-là, d'ailleurs, on le voit comme en deux parties. C'est-à-dire, il y a le moment où il est jeune, où il est plein d'idéaux. Enfin, il pense qu'il va peut-être changer le monde.
On voit sa trajectoire, en fait.
Et puis, quatre décennies plus tard, qu'est-ce qui se passe?
Ben là, quatre décennies plus tard, il décide de mettre dans un geste de folie et complètement découragé de ce qui se passe. Il décide de mettre le feu à une forêt près d'une ville parce qu'il se dit là, les feux de forêt, on dit que les gens ne se sentent pas concernés. Il faudrait qu'une ville soit atteinte par les flammes. Mais ça, c'est mon personnage fictif. Donc, il pose un geste tout à fait tragique. Donc, j'avais envie d'écrire une espèce de personnage tragique. Puis en fait, c'est ça, le lien avec Nicolas Hulot, c'était ça, je sentais chez Nicolas une espèce de...
désespoir?
Oui, de désespoir qui était proche de la folie, puis je pense qu'il s'est replacé après, mais je sentais ce potentiel-là de dire, t'es si proche de quand t'es à l'intérieur de la machine, puis tu vois comment ça marche, puis toi, t'as envie de changer les choses, puis là, tu te heurtes à la mauvaise foi des gens, aux tractations, aux manigances, ça doit être très difficile après ça de...
Ben, surtout quand t'es reconnu, comme quelqu'un dont la parole vaut de l'or.
Oui, c'est ça. Ton intégrité est mise en doute après tout ça. Donc, c'est un peu ça qui m'animait pour le personnage principal, de dire, ben, c'est quoi l'impact sur l'âme du personnage, sur la psychologie du personnage, d'essayer de changer les choses de l'intérieur, puis de se heurter, puis d'y croire quand même. Le personnage y croit.
Pour s'embarquer dans ce,
ouais,
dans ce combat-là, puis, faut que tu crois à la politique.
Oui, c'est ça. Tu crois qu'il y a une possibilité de changer les choses. Puis il y a un moment où il se dit, c'est peut-être là qu'il faut mettre ses énergies parce que, justement, l'appareil politique est tellement difficile à faire bouger. Il se dit, si les pétrolières bougent, il va avoir un effet d'entraînement. Les pétrolières vont toutes vouloir bouger s'il y en a une qui bouge. Tu sais. Mm. Fait que c'est un peu ça qu'il se dit. Mais c'est ça. Fait qu'en même temps, c'est ça. Donc, il y croit, mais plus ça avance, plus il se rend compte que finalement, Puis il y a aussi le paradoxe que là, il est super bien payé. Il est comme...
Mm-hmm. Ah ben
d'un
oui,
coup, là, il se sent
évidemment
un peu à l'aise dans la compagnie. Puis là, il commence à adopter le point de vue de la compagnie. Il commence à comprendre, ouais, un peu plus leur point de vue. Puis il dit, ben oui, mais oui, il faut le faire, mais il faut prendre notre temps, il faut faire attention. Il y a des enjeux économiques. Donc, c'est ce parcours-là du personnage qu'on voit dans la pièce.
Et elle se passe dans les années... À la fin des années 70?
Oui, c'est ça.
Jusqu'à
40 ans. En fait, il y a comme deux lignes de temps. Il y a la ligne du temps du présent, où on a le personnage qui est... Je ne sais plus quel âge, mais au présent, donc okay, 40 ans plus tard.
Il y a à 60 et puis 20 dans les années 80.
En fait, on voit sa fille, parce qu'il y a eu un enfant au début de la pièce, puis... Sa blonde est enceinte. Puis c'est un peu pour ça qu'il accepte le poste aussi. Là. Il se dit, moi, je...
Pour un niveau financier.
Oui, pour une sécurité financière.
Enfin, pour l'avenir de ma fille, je vais m'embarquer dans le débat.
On ne peut pas faire n'importe
combat,
quoi, même pour l'avenir de ses enfants. Justement, pour l'avenir de ses enfants. Ben,
justement, c'est ça.
Oui, mais en fait, dans le couple, il y a la femme de Jarvis, qui est Judy aussi, qui, elle aussi, est concernée par ces enjeux-là. Puis elle, il y a comme un... J'ai aussi décidé de faire une pièce qui aborde l'intime dans le sens où... tu as ce personnage-là de Jarvis, qui est scientifique, qui essaie de changer les choses de l'intérieur. Et sa femme, elle, après un chemin différent, elle se lie d'amitié avec des activistes et elle essaie de changer les choses de l'extérieur. Mm. Donc, il y a un moment où vous avez l'impression qu'ils travaillent pour la même cause, mais avec un chemin différent, mais...
Pas dans la même pièce non plus, là.
Pour le même endroit.
Un est à l'extérieur,
oui, c'est ça.
À l'intérieur.
Ils font chacun leur travail de leur côté, puis ils ont l'impression qu'ils travaillent dans le même sens. Puis il y a un moment où finalement ils se recroisent, puis là c'est.
Ils se reconnaissent plus.
Oui, c'est ça. Il y a une distance qui s'installe, j'imagine, dans le couple. Donc
alors,
il y a cette histoire-là aussi.
Petite pause musicale avant qu'on continue là-dessus. Donc on va écouter, ouais, dans le dernier album de Marion Cousineau, une chanson qui s'appelle Lala. Lala ne la trouve pas.
Ou je vais la chanter, hein.
Oui, j'ai déjà marché cette terre écorchée, ce chemin ardu, suspendu du cœur déçu. Je reconnais les pierres, les herbes et la colère mauvaise conseillère qui me fait faire tout à l'envers. Cette voix qui susurre que pour que la blessure ne laisse pas de traces, à défaut de ta peau, c'est le courroux qu'il faut que j'embrasse. Que la seule manière de survivre à l'hiver, c'est de se persuader que l'été n'a jamais existé. Finalement hier, j'ai soufflé la poussière sur ton écriture, re-reçu en plein cœur toute ta douceur, toute cette élégance que j'aime et quand je pense à la prochaine qui ne viendra pas. Ce qui pleut, c'est ça. Et je scrute le ciel, je cherche un Gabriel qui m'apporterait un sourire de toi, la caresse sur mon bras que j'aimais. Je rêve d'une confidence faite par un inconnu au coin d'une rue. Ne t'en fais pas, elle veille sur toi. T'es bon, pays, t'es où, pas.
J'ai failli pas le prendre, ce livre qu'un ami tendre a mis sur ma route. Moi, quand je doute de toutes. 12e page du recueil, ce titre, comme un clin d'œil, l'arbre est dans ses feuilles, v'lant dans la gueule, t'es pas toute seule. Ton regard sur le monde, ta tendresse vagabonde d'être insaisissable, tes airs de tournesol, tes cheveux qui raffolent du mistral, la couleur de ta voix, tes mains et leurs 10 doigts longs comme les années que tu as passées sur les planches dans des robes blanches. Je surprends tout cela dans mon corps, te voilà qui refait surface. Viens, laisse tes traces, je te fais de la place.
Et nous voici de retour. Et bien sûr, Mathieu qui continue à parler tout seul, ça nous fait plaisir. Bon, Mathieu, qu'est-ce que t'en penses, toi?
De quoi?
Du changement climatique. Du changement climatique.
Non, mais quelle question.
Es-tu pauvre?
Je suis pauvre.
Non, François, quand Greta a fait son discours, ça aussi, ça a dû être quelque chose qui t'a
touché. En fait, moi, quand j'ai commencé l'écriture de la pièce, c'était l'été 2018, puis il y avait comme un contexte aussi. Il y avait la canicule en France, où il y a eu plusieurs décès. Et c'est cet été-là que Greta s'est installée devant le Parlement suédois pour commencer à manifester. Après ça, c'est au mois de, je pense, octobre que la grève étudiante s'est répandue. Il y a eu aussi ici le pacte de Dominique Champagne au mois d'octobre 2018.
C'est vrai, c'est ça.
Un an plus tard, il y a eu la marche pour la Terre où on était 500 000. Fait que, vous savez, moi, pendant que j'écrivais tout ça, j'avais l'impression qu'il y avait un momentum, tu sais, il y avait comme quelque chose. On sentait que les voix s'élevaient, puis que l'urgence était là, puis qu'il y avait une volonté, en tout cas, les gens se tenaient debout, puis on sent qu'il y avait, puis que ça allait mettre de la pression sur les gouvernements. Mais malheureusement, il y a eu la pandémie qui nous a empêchés après ça de, en tout cas, qui a relégué tout au second rang.
Mais est-ce qu'il y a eu ça ou il y a eu aussi le fait de la tourner en dérision pour que son discours ait moins d'impact?
Greta, je trouve ça très déplorable.
On nous disait des choses et puis oui, allez, il y a le feu, ah oui, mais c'est là-bas, c'est pas devant ma porte.
Non, c'est ça la complexité, mais moi je trouve ça déplorable qu'une jeune fille de 15 ans soit obligée de porter cette cause-là, je veux dire, je trouve ça vraiment triste. Puis il y a des gens qui disent « Ah, c'est extraordinaire », mais moi je trouve pas ça extraordinaire, c'est pas elle qui devrait porter cette cause-là.
Ah, ça c'est sûr.
Puis c'est une cause...
Puis elle devrait pas être tournée en dérision non plus.
Oui, c'est ça, puis qui est pas très difficile à comprendre, tu sais, je veux dire, elle l'expliquait, elle allait dans les conférences, puis elle expliquait ça aux gens, aux politiciens, aux décideurs, puis eux autres étaient comme...
Hermétiques.
Oui, c'est comme... Puis là, ça devenait une cible facile parce que c'était un enfant. Là, c'est une enfant hystérique. Puis là, fait que c'est dommage qu'elle soit... Ben, tu sais, je comprends que c'est important pour elle de le faire, mais c'est comme devenu une cible facile pour les gens qui étaient contre... contre le changement.
Alors, ton écriture a duré combien de temps, de cette pièce?
En fait, c'est ça. J'ai commencé en 2018. La pièce devait être montée en 2020. Là, la pandémie est arrivée. Mais moi, ça m'a freiné un peu dans l'écriture, dans le sens où normalement, quand je fais une création, on fait un travail de table avec les acteurs, puis moi, ça m'aide en écoutant, tu sais, on s'installe.
Ouais.
Oui, c'est ça, les comédiens lisent, puis là, moi, ça m'aide, ça m'éclaire sur les personnages, je comprends des choses. Et j'ai pas pu faire ça. J'ai été privé de ce moment-là, puis le texte a été publié, en fait, parce qu'il y avait déjà une publication prévue, mais sans que j'aie fait préalablement ce travail-là. Mais l'éditeur voulait publier le texte, mais fait que j'ai fait ce travail-là avec l'éditrice. Donc, une étape de travail que j'ai fait, mais en même temps, c'est pas le même travail, tu sais, par rapport au livre puis par rapport à la scène. Tu sais, à la scène, il y a des choses que dans un livre, ça passe bien, mais sur scène, il y a une espèce d'urgence qu'il faut avoir. Donc, il y a des choses qu'on a coupées. On a fait un atelier, donc, pendant la pandémie, au moment où on devait monter la pièce, on a eu un temps où on pouvait travailler sur le texte avec les acteurs. Fait qu'on a fait ça. Moi, ça m'a permis d'avoir un peu de recul. Fait que là, j'ai continué à travailler sur le texte. J'ai changé des choses à la demande aussi de Edith Patnaud, qui fait la mise en scène.
Elle est merveilleuse.
Ben oui, puis j'étais content de travailler avec elle parce que moi, l'écriture que j'ai que j'ai abordé au théâtre, c'est surtout une écriture intimiste. J'ai travaillé beaucoup à la licorne. Puis là, j'ai un grand plateau. Là,
oui,
puis c'est la...
ouais.
Fait que là, tout d'un coup,
oui,
je suis un peu intimidé. C'est comme, ah, mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Puis elle a une grande expertise des grands plateaux. Elle a fait beaucoup de shows de grands plateaux. Fait que j'étais content de l'avoir avec moi. Puis elle m'a beaucoup questionné sur le texte. Elle m'a proposé des choses. Fait que ça, c'est pour moi, c'est super. Puis elle a aussi mis sur pied une équipe incroyable d'acteurs. Fait que là, j'ai vu un enchaînement la semaine passée. Mais là, on rentre en salle. Là, j'y vais ce soir. J'ai hâte de voir.
Comment tu te sens?
Ben, c'est toujours... tu sais, je fais la promotion. C'est un show que j'ai pas vu. C'est tout le temps drôle.
Non, mais tu l'as écrit quand même.
Oui, je l'ai écrit, mais c'est pas... Tu sais, le théâtre, c'est un acte collectif. Là,
vivant aussi.
Le texte, oui, c'est ma responsabilité, mais il y a le jeu des acteurs, la mise en scène, la scénographie, la musique. Il y a plein les éclairages, tu sais. L'objet théâtral, c'est pas moi qui le contrôle. Mm-hmm. C'est comme vraiment un travail d'équipe, puis... On est en train de le découvrir, on est en train de le construire, on assemble les derniers morceaux. Fait qu'il y a quelque chose de... Je ne sais pas exactement de quoi va avoir l'air le show. Puis oui. J'ai hâte de le voir. Puis ce que j'ai vu la semaine passée, c'était encourageant, mais on était en salle de répète, fait qu'il manquait encore beaucoup d'éléments. Tu sais.
C'est intéressant. C'est rare qu'on en parle de la place d'un auteur, de passer d'une plus grosse scène...
Ouais.
De changer de grosseur de
C'est pas la même écriture. C'est pas la même écriture.
Parce que quand tu l'as écrit, est-ce que tu l'avais prévu pour une salle en particulier? Est-ce que tu l'avais écrit pour la licorne?
Non, en fait,
cette pièce-là, je l'ai écrite en résidence chez Duceppe.
Okay.
Quand les nouveaux directeurs artistiques sont arrivés, Jean-Simon Traversier et David Lorrain, c'était peut-être en 2017 qu'ils sont arrivés là. Puis une des premières choses qu'ils ont eu envie de faire, c'est d'avoir une résidence d'auteur. Il n'y avait jamais eu ça chez Duceppe. Donc, d'inviter des auteurs à écrire pour ce plateau-là.
OK.
Fait que c'était super intéressant parce que moi, j'étais content de participer à cette espèce de renouveau de la compagnie. Puis de discuter avec eux. Là, on a été lunchés ensemble. Puis là, ils m'expliquaient ce qu'eux voyaient pour l'avenir de la compagnie. Ils m'ont fait lire des textes qui les intéressaient puis qu'ils avaient envie de programmer. Fait que là, ça me nourrissait, puis ça me disait, ah, OK, c'est ce genre de texte-là qu'ils ont envie de faire. Puis ça fait que j'ai comme, au gré de nos discussions, mais j'ai commencé à voir un peu ce que je pouvais faire sur ce plateau-là, en fait.
Ce que tu pouvais écrire est arrivé, ce texte-là.
Oui, c'est
Et
ça.
Et puis là, maintenant, le grand plateau, ça a été une lecture d'abord, Ça s'est passé en lecture?
On a fait une captation audio, mais c'est ça c'était l'étape où on a réuni les acteurs à partir du texte qui n'était pas encore fini. Donc, tu sais, c'est un texte qui, tu sais, on l'a fait, mais en même temps, pour nous, c'est plus une étape de travail pour vérifier des choses. Puis à partir de ça, moi, après ça, j'ai resserré beaucoup, là, j'ai simplifié des choses. Je me suis rendu compte que, tu sais, il y avait déjà beaucoup de personnages, mais que le récit, il s'éparpillait un peu. Donc, à un moment donné, ça a fait « OK, je vais resserrer un peu ». Pour que ça soit encore plus un thriller.
En tout cas, j'ai hâte de voir. Je ne peux pas trop en parler du côté thriller parce que je ne l'ai pas encore vu, mais je vous en parlerai quand j'en reviendrai.
Oui, c'est ça, vous dire que ça marche.
En tout cas, si ça marche. Mais non, mais ça va marcher. Mais c'est du 13 avril au 14 mai, comme on arrive à la fin de cette entrevue.
Oui, c'est
Eh ben, merci beaucoup. En tout cas, puis on va continuer à se dire c'est bon d'aller voir ça, c'est bon de le relever parce que j'ai l'impression que plus on entend parler de tout ce qui se passe, qu'on le prend comme si c'était dans un film, une histoire qu'on nous raconte ou un livre qu'on peut fermer.
Ouais.
C'est dommage.
Ouais, ben, je sais pas quoi dire à ça.
Ben, il y a rien à dire en mot de la fin. C'est juste que c'est dommage que c'est bienvenu que tu fasses cette pièce.
Ouais,
est-ce que ça va remuer des gens? Est-ce que ça va bouger des choses?
On espère. Tu sais, c'est toujours, c'est comme une bouteille à la mer, mais en même temps, tu sais. Ou bien, c'est une pièce de théâtre. Là. C'est pas ça qui va tout changer. Là.
Non, mais, c'est pas ce qui va tout changer, mais c'est ce qui va ramener peut-être à la vue quelque chose qu'on a là sous les yeux depuis des années et où on fait rien.
Ouais, puis l'idée, c'est de donner une autre perspective sur les choses.
Voilà.
En tout cas.
En tout cas, merci beaucoup pour cette entrevue, pour la pièce.
C'est un plaisir.
Si tu veux rester avec nous pour entendre Mathieu, tu peux. Si tu as besoin de partir, tu peux. T'en as pour encore une demi-heure, donc tu vois. Mais par contre, la chanson de la fin, c'est Alex Pic. Moi, je l'ai pris pour le titre parce que le titre, c'est « L'amour va sauver le monde ». Alors
ouais,
quand
c'est
même,
une bonne idée,
hein,
ça.
On va le faire.
On oublie, on abandonne la beauté d'une fleur. s'ennuie de toutes ces personnes qui nous portaient bonheur. On se livre à la somme, on se livre à la somme. Tu me donnes, le temps devient meilleur. Ton sourire, pour contrer le pire, éloigne le malheur. On se livre à la somme, on se livre à la somme.
Restez avec nous parce que c'est Mathieu Tessier et pour une fois il a des choses intelligentes à nous dire. Restez avec nous.
Bon, mais je quitte.
À tout de suite, Mathieu. Et François reste avec nous aussi.
Oui.
Yeah.
Yeah.
Pour reconnecter Diego.
Salut tout le monde, ça va bien?
À ses collègues.
Hey, allô le petit nouveau.
Et ses collègues, à Diego.
C'est parce que ça fait 7 mois que j'ai commencé.
Il y a la STM. La meilleure façon de se reconnecter.
Et les Faramineux avec Arlette Farah.
Why you never let go? C'était The Cat Empire et la chanson La Sirène.
Pourquoi c'est pas Arlette qui l'a présenté?
C'est parce que Nicolas a une voix de... il a une voix extraordinaire.
C'est la relève,
Nicolas.
La relève.
Hein? Le... T'as vu comme je te flatte là?
Oui, oui, je sais. Je me sens plus mais... joyeux que Mathieu, présentement.
Et je le pense. Allez, Mathieu, c'est à toi maintenant.
C'est ça que je suis devenu chauve. Les gens me flattent trop. N'importe quoi. La semaine, je vais continuer en fait sur mes chroniques sur les créatures et les mythes que l'on retrouve au Québec. Pardon. Mais pour parler de celle d'aujourd'hui, il faut faire un petit tour dans un voyage dans le temps et dans le fantastique monde des créatures chimériques. Je te regarde, mais...
J'aime autant que tu ne fasses pas de comparatif avec mon faciès, mais bon.
Dans la mythologie grecque, il faut savoir que la chimère, c'est une créature fantastique.
Mais très, très laide.
Oui, la plupart du temps, très souvent malfaisante. Et on la décrit comme ayant la moitié d'un corps du lion et de la chèvre et aussi avec la queue d'un serpent.
Okay.
S'il aime la croustade aux pommes, ce n'est pas marqué dans la mythologie. Enfin, le nom chimère a aussi été donné à des bêtes fantastiques que l'on retrouve ailleurs que dans la mythologie. Donc, la légende d'aujourd'hui, la dernière fois, on a quitté l'île de la Madeleine et son nain jaune.
Ah oui,
et
c'est
la
vrai.
La butte au noir. Alors, naviguons le golfe du Saint-Laurent pour se rendre jusqu'à l'embouchure du fleuve Saint-Laurent. Allons-nous y parvenir? C'est pas que j'ai pas confiance à notre fier esquif, mais c'est les rencontres qu'on pourrait y faire.
OK.
Savez-vous que le grandiose golfe, je dis grandiose parce qu'il est énorme, il a une superficie de 226 000 km². Ça, pour Arlette, c'est le tiers de la France.
Hey.
On pourrait mettre le tiers de la France ou un petit peu, c'est un petit peu plus petit que la Nouvelle-Zélande. Mais j'ai préféré dire la France. Parce
oui, t'as raison, parce qu'en Nouvelle-Zélande, j'y suis pas allé récemment.
Non? D'accord, c'est beaucoup de Corse. qu'est-ce qu'on retrouve dans le golfe? On retrouve l'île d'Anticosti, on retrouve l'île du Prince-Édouard, on retrouve les deux archipels, dont la magnifique archipel des îles de la Madeleine, mais on retrouve aussi Saint-Pierre-et-Miquelon. Mmh. Mais il y a aussi des sirènes. Je ne parle pas des sirènes de bateau, je parle des créatures de la mythologie grecque, que la mythologie grecque, en fait, décrit comme des créatures marines. Et savez-vous que ce sont des femmes, mi-oiseaux dans la mythologie?
Hein? C'est pas des mi-poissons?
Non, dans la mythologie grecque. Excusez-moi, dans la mythologie grecque, c'est des femmes, c'est des mi-femmes, mi-oiseaux. Je vais finir par...
C'est beaucoup plus joli, ce qui est beaucoup plus joli.
Mais j'essaie dans d'imaginer. Ouais. Est-ce qu'elles ont des ailes ou...
Non, c'est le haut du corps et c'est le bas du corps.
Juste les plumes.
Ouais. Okay. C'est dans la mythologie nordique que l'on retrouve les sirènes, que nous, on connaît plus, autrement
comme
dit.
Comme la petite sirène, quoi.
Exact. Puis là, j'ai fait un tour rapide de ma bibliothèque pour voir dans quel livre on pouvait retrouver des sirènes. Il y a évidemment La petite sirène de Hans Christian Andersen. Oui. On en retrouve dans L'Odyssée de Homère.
Ben oui.
Ouais.
Virgile en parle aussi. Je n'ai pas lu parce que voilà.
Dans les chansons de Nick Cave aussi.
Aussi, ouais. C'est vrai. Ouais. Je suis dans les livres, mais dans Les Mille et Une Nuits, Guillaume Apollinaire en parle dans son bestiaire ou dans le bestiaire ou cortège d'Orphée. La Divine Comédie en parle aussi. J.K. Rowling et Harry Potter en parlent aussi. Okay. En fait, on les retrouve un peu partout. Il existe donc, à l'embouchure du fleuve, un groupe de jeunes sirènes qui ont eu la malchance de s'y égarer un jour. Le petit groupe avait pris la direction pour se rendre dans la Méditerranée en compagnie de leurs aînés pour rejoindre leur demeure qui se situerait dans la mer Rouge. Ces créatures à la tête et au torse de jeunes femmes avec une queue de poisson sont désormais perdues dans le Grand Golfe, donc entre les îles de la Madeleine et l'île d'Anticosti. On peut aussi croiser, outre les sirènes, on peut croiser, d'ailleurs, si je vous invite à aller revisiter le biodôme de Montréal, dans l'écosystème du Saint-Laurent, on ne retrouve pas de sirènes, mais on retrouve exactement les mêmes poissons qu'on peut trouver dans cette région-là. C'est-à-dire, on retrouve des esturgeons, de la morue, le bar rayé, le saumon et même les raies. Alors, gardons un œil comme une huître, un œil ouvert comme une huître, puisque ces ravissantes créatures ont l'habitude de s'approcher des bateaux, des pêcheurs gaspésiens, mais pas seulement, pour enfin ou pour un jour trouver un capitaine qui voudrait bien les ramener jusqu'à leur domicile de la mer Rouge. Leurs chants, nous dit-on, ont l'enivrante douceur d'une brise tiède et leurs gestes sont aussi gracieux et envoûtants que leurs semblables des mers lointaines. Les témoins, quelques témoins de leur apparition, prétendent que leur peau a la couleur du flétan. Là, j'ai fait une recherche parce que...
C'est quelle couleur? Que...
Exactement. Couleur, ouais, c'est ce que
je suis pas expert. Il y a plusieurs couleurs, le flétan. En fait, une couleur brun verdâtre au marron très foncé. Mais puisqu'ils sont jeunes, puisque ce sont de jeunes sirènes, le flétan est d'une couleur plutôt blanche quand il est jeune.
Okay.
Un blanc qui se marbre de gris, voire même rouge cerise, et quand il avance en âge, on a l'impression que sa chevelure, ses grandes nageoires, sont couvertes d'or.
Le flétan ou la sirène?
Oui, le flétan. Ah, ouais, je pense que dit, dans la description que j'ai trouvée, dans la description, ça disait « et dont la chevelure très fine leur tombant à la ceinture ». Et là, on parlait du flétan.
Ah, non, pas cheveux.
Oui, exact. Ils ont une ceinture, surtout. C'est pas pratique à attraper quand tu vas dans l'eau. Les marins qui racontent... il y a plusieurs pêcheurs qui ont résisté au charme des sirènes du fleuve.
Qui sont devenus fous?
Non, ben oui, puis non. En fait, ils reviennent avec une complainte. Qui viendrait
des
sirènes elles-mêmes. Moi, je suis un pauvre mousse à bord d'un vaisseau royal. Je vais où le vent me pousse. Tout cela m'est bien égal. C'est au ciel que j'espère y connaître un peu d'amour. Là, je reverrai ma mère. Là, ma mère attendra mon retour.
Et pourquoi donc, tu ne nous l'as pas chanté?
Oui, c'est ça, je me disais.
tu connais pas l'art?
Parce que je ne chante que lorsque le micro va juste être ouvert. Mais avant ça. Et pour terminer, on retrouve un témoignage pas si lointain que ça. En 1986, un pêcheur de Gaspésie, de Marsouy, en fait, Marcel Breton, qui disait « Elle était belle. » Je ne veux pas prendre l'accent d'un pêcheur, je ne sais pas ce que ça... Mais elle était si belle qu'on aurait dit un rêve qui prenait forme devant mes yeux. Mon cœur a fait deux tours, puis j'ai commencé à suer comme un gars qui court le marathon. Elle me faisait signe de l'aider, de me jeter à l'eau pour aller la chercher. Moi, je voyais bien qu'elle était prise dans mon filet, mais je pouvais juste la regarder. J'étais juste émerveillé. Puis tout à coup, on dirait qu'elle s'est fatiguée de me voir la face longue, puis la bouche ouverte comme un flétan, à rien faire. Ça, ce flétan, c'est moi qui l'ai rajouté. Qu'elle a donné un coup de queue pour déchirer mon filet. Après ça, je l'ai vu disparaître dans les profondeurs.
Voilà, c'est beau.
C'était la dernière fois qu'on voyait une sirène. 1986, si jamais vous êtes dans ce point-là.
Okay. Marcel, est-tu encore vivant?
Breton.
Marcel Breton, est-tu encore vivant?
On peut l'appeler. On va demander à Nicolas de l'appeler pendant la pause.
Il nous raconte en direct.
Je lui ai laissé plein de messages, mais il ne m'a pas répondu.
Il y en a peut-être vu d'autres depuis.
C'est peut-être Marie aussi.
On écoute Chasse Pareil qui nous chante Saint-Laurent.
J'ai fait exprès. J'ai attendu que la lumière s'allume.
Et j'étais en train de dire, ne sois pas désagréable avec Nicolas. Alors, on t'écoute.
Pas du tout.
François est là. Sois intelligent, s'il te plaît, un petit peu plus que d'habitude. Fais-nous la surprise.
Non, ben, ça se passe bien pour l'instant.
Non, c'est bien.
Alors,
la première expression aujourd'hui, comme tout le monde le sait, j'essaie de familiariser Arlette avec les expressions, les idiomes québécois.
Il essaie plutôt de me perdre avec les expressions
pas du tout. J'essaie aussi de perdre Nicolas de temps en temps. Il n'y arrive pas toujours, mais en tout cas, la première expression d'aujourd'hui, Arlette, vous tous, drôle de moineau.
Oui.
Bon.
Ça, j'ai déjà entendu ça, là.
D'accord. Moi aussi. Est-ce que c'est A? Il est en retard. J'aimerais bien me commander de quoi boire tout de suite. Le drôle de moineau est donc un cocktail que l'on boit seul en attendant les retardataires, même ceux qui sont habillés avec une queue de pie. Ça, c'est l'option A. B, c'est un plat congelé trop épicé qui mélange saveurs estivales et les effluves de muffler parce que la terrasse où tu manges est trop proche du trottoir. Drôle de moineau. Lorsqu'il m'arrive de me lever un peu trop tard, de m'habiller en vitesse et que je termine mon ensemble vestimentaire par mes sous-vêtements, donc mes sous-vêtements devenant des survêtements, il est possible que les gens qui me regardent et qui me croisent dans la rue me disent que je suis un drôle de moineau. Bon, c'est probablement la plus facile. C'est A, bien sûr.
Ben oui.
Hein? Non, c'est C.
C'est la C.
C'est ça.
Celle-ci, je la connaissais.
Faut que j'essaie de coincer Arlette aussi. L'expression « t'es tellement mine ».
Ah ben ça, je connais pas.
Le genre d'individu mesquin qui a malheureusement maintenu sa forme physique simplement en roulant à vélo sur la piste cyclable qui longe la traque de chemin de fer. Et pourquoi celle-là en particulier? Eh bien, parce qu'elle est en gravelle et qu'il espère crever les yeux des écureuils sur sa route. Et, comme qu'on dirait, vraiment mine. Ou bien c'est B. Tu es très populaire sur cette rue commerciale perpendiculaire au fleuve Saint-Laurent, dont on parlait un peu plus tôt, qui coupe traversalement l'île de Montréal en deux, et cela sans trop faire d'efforts. Bravo.
La troisième?
T'es en retard, t'as pas fini ta chronique, et puis y a pas de salle de bain dans le taxi que t'empruntes. Autrement dit, t'es dans chenoute, t'es mine.
Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'en sais rien du tout.
Je pense que c'est assez facile.
Oui, ça vient de l'anglais, en fait.
Exact. Alors, il y a beaucoup d'expressions au Québec.
Mine, ce serait mine dans le sens de méchant, là. C'est vraiment...
Devrait animer. Je pense qu'on a trouvé un remplaçant. Quand tu tombes en vacances, tu viendras. Bien oui, c'est A, être méchant.
Méchant, oh, ben dis donc, alors je ne l'avais pas, celle-ci. D'accord.
L'ourlet.
C'est ce que c'est un ourlet.
Au Québec.
Ah, OK, ben, au Québec.
Là. Est-ce une bedaine de bière de microbrasserie? Ou, comme le chantait si bien Passepartout, on m'appelle la brebis, doubedon, bedondaine. Je suis la maman mouton, bedon de laine et bedon rond.
Ça, ou bien. C'est un choix de réponse.
Oui, ça, c'est le A.
OK. J'étais un peu perdu.
Bon, enfin.
Club.
L'ourlet, est-ce que c'est B? Comme l'écrivait l'historien Bacqueville de la poterie dans son Histoire de l'Amérique septentrionale parue en 1722, vous ferez des recherches, ça existe. On décrit les traces qui paroissent d'un homme qui s'enfoie. Ils eurent beau courir, ces traces s'évanouirent à la fin parce que les blancs de neige et toi fondus.
Tu te surpasses, là. Voilà. Je suis complètement perdu.
Ourlet, est-ce que c'est un banc de neige ou est-ce que... est-ce que, tel que stipulé dans le fascicule du jardin zoologique de Vienne, attention, cœur sensible, la bête que vous trouverez tapie dans le prochain enclos n'est pas très beau. On pourrait même dire qu'il est laid. C'est un ourlet.
Un ourlet.
Au hasard, c'est la 2?
Bravo!
Oh yeah!
Au Québec, on peut dire un ourlet au lieu d'un banc de neige.
C'est vrai?
Oui.
Ah, je savais pas ça.
Ouais. J'en apprends moi-même.
Tu vois? Toi, que je qui fait des efforts, je sais pas ce qu'il boit ou ce qu'il
rien
fume
du
avant
tout.
De faire les phrases. Mais...
Tout est de la haine. Pas tout est de la haine. Tout est de la haine.
Tout est, comment tu dis ça?
T-O-U-T-T-E-R. Tout est.
Tout est de la haine.
Est-ce que c'est A, s'engueuler de trop près avec quelqu'un qui a mauvaise haleine et qui plus est ne prend pas pour ton équipe sportive? Est-ce B, d'utiliser le type d'avertisseur sonore pour les automobiles qui, même les bateaux, lorsqu'un abruti sans casque roule dans le sens inverse, en chantant du Stéphane Venn? Oui, excusez-moi.
Même toi, tu es étonné parce que
même
tu es écrit.
Moi-même, je ne voyais pas où la phrase s'en allait. Où c'est, ça veut dire se venger toute la haine. Comme par exemple, en plaçant une chaudière de plumes au-dessus d'un cadre de porte dans une entreprise de toiture.
C'est se venger.
Non.
C'est pas se venger?
Non.
Alors, c'est la une parce
c'est
que la deux, elle a pas...
klaxon.
C'est klaxon? Ah
oui. Ouais, c'est la B. Un.
Tout est de l'air.
Tout est de l'air.
C'est ce que j'ai jamais entendu du
tout. Ah, tout. Ah, okay. Ça vient de tout.
Ouais.
Il va sortir de la France. Il va être complètement allumé. Il va dire non, c'est trop.
Une dernière, on a combien de temps encore?
Bon. Non, on a encore un moment.
OK. Pouce, mais pouce égal.
Ah oui, ça.
Bon,
c'est...
ça, tout le monde
ça,
le connaît.
C'est courant, ça. Oui.
OK. T'es saoul. Puis tu sens le bac de compostage. Puis t'as quelque chose de coincé entre les dents, ce qui malheureusement détourne notre attention de ton écharpe de Miss Jardin Botanique. D'accord. OSB, t'es trop jeune pour monter dans un manège à la ronde qui, de toute façon, est fermé pour la saison. Si tu veux, je te garde ta adresse. Viens-t'en, je te paye un tour de métro. L'expression pouce, mais pouce égal. C'est pas parce que je suis arrivé en retard de 2 heures que mes vêtements sont à demi brûlés, que l'autre moitié est en lambeaux et que j'ai 2 yeux au beurre noir, que mes dents s'apparentent à un xylophone acheté d'occasion au marché aux puces de Saint-Lambert et que t'as le droit de te demander, que tu es en fait en droit de te demander si quelque chose s'est passé. Faut pas que t'exagères un peu.
OK, Laura. Nicolas, c'est à toi.
Moi, j'ai aucune idée. Mais j'allais avec la
2.
La 2, parce voilà. Que petit pas, c'est petit, donc je me dis peut-être avec les manèges.
Et toi, François?
Ben, j'irais pour la dernière.
Il est fort. Là.
C'est la dernière?
Il est fort.
Oui.
Il est fort.
Tabernou, j'aurais jamais
c'est...
cru.
Exagère pas, c'est ça.
Exact.
Exagère pas.
Lâche-moi un whack.
Oui.
D'accord. Est-ce que c'est A, tu me feras signe, sauf si tu te déguises en branche d'olivier, hein? Tu mets des miettes partout, puis de toute façon, je suis allergique au son de ton aspirateur. Lâche-moi un lac.
Un lac?
Un whack. Je t'ai déjà rendu sur ma prochaine ligne. T'es un fan fini, un indécrottable du ballon chasseur. Et le fait d'être végétarien ne te pose aucun problème? Ou c'est, oublie pas, on est toujours dans l'expression « lâche-moi un whack ». Nous n'avons pas le temps de vous recevoir. Votre appel est important pour nous. Entre-temps, nous passerons le week-end à notre résidence tertiaire de vacances et vous êtes les bienvenus, surtout lorsqu'il sera temps de faire la lessive.
Oui, ça ressemble à ça. C'est un coup de fil en rapport avec le téléphone. Non? Donne-moi un coup de fil, donne-moi un appel. C'est pas ça? Lâche-moi un whack.
Mm-hmm.
C'est ça la même?
Mm-hmm. Tu me feras signe.
Tu me feras signe.
C'était
la première.
Mais moi, j'aurais voté pour la deuxième parce que je la trouvais bonne.
Oui.
Ça lui arrive souvent aussi. Je m'en fous de la réponse. Je voudrais juste que tu répètes la...
Parfait. J'ai des préférences des fois sur ces réponses.
L'expression, c'est trendy au bout.
Est-ce que je l'ai entendu, ça? Non.
Toi qui es bilingue?
Oui, bilingue. Okay. Au Québec, oui.
Ah, tu te souviens de ce joli sac de vidange que tu portais tel un vêtement de haute couture? Eh bien, tout le monde en parle maintenant. C'est tellement rendu à la mode. D'accord? SB, t'as une douleur la même où les docteurs ne veulent pas regarder? Ou C, tu es bilingue, mais tu ne parviens jamais à te faire comprendre, surtout par ceux qui te parlent ta langue maternelle.
Ah ben j'aime la 3.
Mais c'est pas ça.
C'est laquelle?
C'est la première, à la mode.
Je suis content de me faire comprendre pour une fois. Hey, tu reviendras. Ça fait tellement du bien. Là. J'ai tout le temps l'impression d'être tout seul.
C'est pas vrai. Souvent, je gagne. C'est parce que là, t'en as fait des raids.
Une dernière que je t'avais déjà faite, Arlette. Oh, tu te prends pas pour un 7-Up flat.
Ah oui, je me rappelle que tu l'as déjà fait. Ouais. Mais je me rappelle plus des...
Tu es bêcheur, comme dans une chanson de Vian. Cabotin. Comme dans une exposition collégiale, faux comme une élection américaine, mondain comme un sociopathe, poseur comme un sous-vêtement sophistiqué, comme le macramé, vaniteux comme un trompe-l'œil à Las Vegas.
Oui.
Ça, c'est un choix de réponse.
Okay. Voilà. Tu prends pas pour un 7-Up flap. Je te comprends pas. Tu dois certainement parler en anglais, appris par cours de correspondance. Ça, c'est B. Ou C. Tu ne veux plus rien boire. De toute façon, j'ai pu une scène, hein, et que les fluorescents me suffisent pour savoir que même intoxiqué, je te ramène pas chez nous.
C'est la une.
Je sais plus qu'est-ce que j'ai dit en premier.
Oui, c'est la une, mais c'est moi, je vais prendre la 3.
Moi, je vais prendre les 3.
Allez, on part.
Bravo, je pense que tous les points vont...
Bravo, Mathieu!
Pas à moi.
Bravo. On part en musique avec Nicolas?
Oui, dans le fond, pour finir, j'ai pris la chanson Dos Orguitas de Sébastien Yatra.
Très bien, c'est ce que tu chanteras prochainement.
J'aurais aimé ça t'entendre la présenter.
Dos oruguitas enamoradas pasan sus noches y madrugadas llenas de hambre. Siguen andando y navegando un mundo que cambia y sigue cambiando. Navegando un mundo que cambia y sigue cambiando. Dos oruguitas paran el viento mientras se abrazan con sentimiento. Siguen creciendo, no saben cuándo buscar algún rincón. El tiempo sigue cambiando, inseparables son. Y el tiempo sigue cambiando. Ay, oruguitas, no se aguanten más. Hay que crecer, aparte y volver. Hacia adelante seguirás. Vienen milagros, vienen crisálidas. Hay que partir y construir su propio futuro. Ay, oruguitas, no se aguanten más. Hay que crecer, aparte y volver. Hacia adelante seguirás. Vienen milagros, vienen crisálidas. Hay que partir y construir su propio futuro. Oruguitas desorientadas en dos capullos bien abrigadas con sueños nuevos. Ya solo falta hacer lo necesario en el mundo que sigue cambiando, tumbando sus paredes. Ahí viene nuestro milagro,
nuestro milagro,
nuestro milagro,
nuestro milagro.
Ay, mariposas, no se aguanten más. Hay que crecer, aparte y volver. Hacia adelante seguirás. Ya son milagros rompiendo crisálidas. Hay que volar, hay que encontrar su propio futuro. Ay, mariposas, no se aguanten más. Hay que crecer, aparte y volver. Hacia adelante seguirás. Ya son milagros salidas. Hay que volar, hay que encontrar su propio futuro. Ay, mariposas, no se aguanten más. Hay que crecer, aparte y volver. Hacia adelante seguirás. Ya son milagros rompiendo crisálidas. Hay que volar, hay que encontrar su propio futuro.
Le micro est ouvert.
Et voilà, il faut qu'il parle parce que le micro est ouvert. Il vous fait encore la blague. Donc maintenant, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci beaucoup François Archambault d'avoir été avec nous.
C'était
un plaisir
vraiment de
te rencontrer. Et puis on va aller voir ta pièce Pétrole qui se joue du 13 avril au 14 mai au théâtre Jean Duceppe. Ne ratez pas ça. Mathieu Tessier,
oui,
merci Mathieu Tessier d'avoir été avec nous. Merci Nicolas. Nicolas Wartman, je veux dire son nom, il est compliqué. Nicolas Wartman pour la musique et pour la technique. Et puis à vous toutes et tous, merci beaucoup de nous avoir suivis. Au revoir, bonne soirée et à demain. Même heure, même endroit. Bye. Merci.
Pour reconnecter Simon et Pierre-Luc à...
Deux relèches moutarde puis le liqueur.
Et surtout, à ça...
Yeah! Voyons, j'ai plus de voix.
Il y a la STM. La meilleure façon de se reconnecter.